« Levez-vous, continua Jacqueline. Vous allez me suivre chez moi. Vous avez besoin de repos, de tranquillité. Ici, ce n'est vraiment pas assez confortable. Vous n'êtes pas à votre place. Un jeune homme comme vous doit vivre dans un autre milieu. Allons, faites un dernier effort, chérie. Vous n'aurez plus après qu'à vous laisser soigner. » « Suis-je sauvé ? » demanda Arnaud avec inquiétude. « Oui, mais votre convalescence sera longue, mon chéri. Il faudra que vous m'écoutiez comme une mère, n'est-ce pas ? Et que vous ne commettiez plus aucune imprudence, plus aucune. » Libéré de la préoccupation de garder son équilibre, il examina les lieux. La fenêtre et la porte étaient ouvertes. Du couloir, des éclats de voix venaient à lui. Un homme, qui portait une petite mallette, passa devant lui en souriant. Sans aucun doute, c'était un médecin. Avant de disparaître, il se tourna vers Arnold. « Vous pouvez dire, monsieur, que vous l'avez échappé belle. » Petit à petit, la lumière se faisait dans l'esprit d'Arnold. « J'ai eu de la chance, » pensa-t-il. La femme de chambre s'approcha de lui. Comme, visiblement, il n'était pas remis, elle offrit ses services à Jacqueline. Jamais tant de monde à la fois ne s'était intéressé au pauvre jeune homme qu'il était. Cette sollicitude générale lui apparaissait d'une douceur sans égale. Il aurait voulu remercier du fond du cœur tous ces gens, mais il en était encore incapable. « Faites un tout petit effort, mon chéri, » dit Jacqueline en maintenant Arnold avec la même tendresse. « Ma voiture est en bas. »« Votre voiture ?» demanda ce dernier, qui craignait d'avoir mal compris. « Je vois que vous n'êtes pas encore très bien. Dépêchons-nous. »« Je voudrais pourtant remettre un peu d'ordre dans ma toilette. »« C'est inutile. Vous êtes bien comme vous êtes. Venez, venez. Je vous en supplie, venez. » Une telle insistance fit tomber les scrupules d'Arnold. Soutenu par Jacqueline, il s'avança vers la porte, sans même jeter un regard sur la chambre où il avait vécu près d'une année. Dans l'escalier, la vue du vide lui donna le vertige. Il ferma les yeux, se laissa conduire, se contentant à chaque pas de demander « Est-ce que je peux ?» Pour le rassurer, Jacqueline lui disait de temps en temps « Encore un étage et nous sommes arrivés. » Devant le bureau de l'hôtel, il leva enfin les paupières. Le propriétaire, qui se trouvait sur le pas de la porte, s'inclina cérémonieusement. Derrière lui, sa femme, sa fille, quelques locataires sourirent à notre héros comme un rescapé, puis saluèrent respectueusement Jacqueline, à la rencontre de qui, la casquette à la main, s'avançait un chauffeur. Celui-ci voulut aider sa maîtresse à soutenir Arnold, mais elle le repoussa. « Non, non, laissez-moi faire. Il faut beaucoup de ménagement. » Elle fit monter elle-même le jeune homme dans sa voiture, puis, revenant sur ses pas, elle glissa discrètement quelque argent dans la main de l'hôtelier. Un instant après, l'automobile démarrait. Bercé par le bruit du moteur, Arnold revenait lentement à lui. Il n'en laissait pourtant rien paraître et, les yeux clos, il feignait de respirer avec peine. Jacqueline, à son côté, lui serrait les mains, les caressait, guettait sur son visage le plus petit mouvement. « Si je n'avais pas eu le courage de regarder la mort en face, » pensa Arnold, « où serais-je en ce moment ?» Il trouvait tout naturel ce qui lui arrivait. Puisqu'il avait fait ce qu'il devait pour être digne d'un grand amour, il ne concevait pas que, le risque passé, il ne fût pas récompensé. Enfin, il allait être heureux. Enfin, il allait pouvoir montrer ce dont il était capable. « Merci, merci !» dit-il à l'être qu'il s'imaginait veillant sur lui seul. Que pouvait-il demander de plus que ceux qui venaient de lui être accordés ? Des années durant, dans le milieu interlope où il avait vécu, il avait rêvé de cette femme idéale qui, aujourd'hui, le contemplait avec amour. S'il ne s'était pas encore signalé à l'attention du monde, il avait une excuse. Elle n'avait pas encore daigné paraître. Maintenant, tout était changé. Une nouvelle existence commençait. Il n'était pas de ces hommes qui reçoivent sans rendre. En échange de l'amour, du luxe, il donnerait son être entier. et Dieu savait les trésors d'intelligence, de cœur, de bonté que renfermait sa poitrine et que seule la vie avait empêché d'éclore. Après une course d'un quart d'heure à travers Paris, aussi lointain derrière les glaces de la voiture que la campagne derrière celle d'un train, le chauffeur ouvrit une portière. Jacqueline descendit la première, suivie bientôt d'Arnold, qui, sans le négliger de sa mise, eût ressemblé à n'importe quel jeune homme. L'automobile s'était arrêtée devant une marquise. L'aspect seigneurial de la maison intimida le jeune homme. Par contenance, il s'appuya, comme pris d'un vertige, contre une colonne. La jeune femme, interrompant sa conversation, courut à lui. « Qu'avez-vous, mon chéri? Comment vous sentez-vous ? »
« Je ne sais pas. »«
Venez, venez, il faut que vous vous étendiez. Cela passera. Dans quelques jours, vous serez complètement remis. »«
Ce n'est rien. Un simple malaise. »
Peu après, Arnold reposait sur le lit même de Jacqueline. Une expression morne était peinte sur son visage, mais ses yeux, grands ouverts, examinaient avec vivacité les lieux. Tout n'était que soierie, meubles rares, fourrures. Jacqueline avait mis un ravissant déshabillé. Immobile à son chevet, elle ne le quittait pas des yeux, se permettant seulement de redresser parfois un coussin. Ne vivait-il pas un cauchemar, car quel rêve est plus pénible que celui d'un tel bonheur? Mais non, tout avait le relief de la réalité. Il pouvait examiner n'importe quel objet, aucun détail ne restait dans l'ombre. Des porcelaines, des tableaux qu'il n'avait jamais vus nulle part, émerveillaient ses yeux. Un feu de bois jetait des lueurs vives dans cette chambre où tout était intime, doux et mystérieux, où l'air des rues, où la laine des foules ne devait jamais pénétrer. Il baissa les paupières. Un bien-être, comme il n'en avait jamais ressenti, l'envahit. Il éprouva le besoin de se détendre, d'allonger ses jambes, de jeter ses bras loin de lui. Combien de temps savoura-t-il cette joie animale? Il n'aurait su le dire. Quand il ouvrit les yeux, une obscurité profonde l'environnait. Il appela Jacqueline. Elle ne répondit pas. Il regarda dans la direction du foyer. Aucune flamme ne réchauffa son regard. Croyant s'être retourné dans son demi-sommeil, il porta ses yeux dans la direction opposée. L'obscurité y était également opaque. Pourtant, une automobile troublait de temps à autre le silence. Il se dressa sur son séant. Soudain, il poussa un léger cri. Une sueur froide coula le long de ses côtes. Sa bouche se dessécha. Le sang lui monta d'un seul coup à la tête. Son front, ses joues étaient pourtant glacés. Il avait cru reconnaître sa chambre d'hôtel. Il voulut se lever, faire de la lumière, mais une main se posa sur son front. « Calmez-vous, Arnold, » dit Jacqueline. « Vous avez un peu de fièvre. Il faut que vous restiez couché. Demain matin, si vous m'écoutez, vous irez mieux. »«
Mais dites-moi où je suis. »«
Vous êtes chez vous, mon chéri. »
Chez moi? Chez moi? Vous en êtes certaine?
Mon Dieu, j'ai peur, c'est terrible.
Non, vous êtes chez moi, dans ma chambre, mais c'est la même chose.
Allumez, allumez, je ne peux plus rester dans l'obscurité. Jacqueline obéit. Arnold reconnut alors cette même chambre qu'il avait tant émerveillée avant qu'il s'assoupît. Il en conçut un immense soulagement. Il ne rêvait pas. Cette existence large, à laquelle il avait tant aspiré, commençait enfin.
« Si vous saviez, Jacqueline, comme je suis heureux d'être près de vous. Il y a si longtemps que je vous aimais, si longtemps que je me tournais vers vous, aussi bien lorsque je souffrais que lorsque j'étais heureux. Jacqueline, couchez-vous à côté de moi. Je voudrais vous serrer dans mes bras, vous embrasser. Je voudrais être si près de vous que nos deux corps n'en fassent plus qu'un seul. »
« Demain, mon chéri, aujourd'hui, ce ne serait pas sage. Il faut que vous vous reposiez. Je pense à votre santé avant tout. »
« Mettez au moins votre main sur mon cœur. Si vous saviez... »
Il ne put achever. La porte s'était ouverte, livrant passage au mari de Jacqueline, Monsieur de Bourmont. C'était un bel homme d'une soixantaine d'années. Il appartenait à ces tempéraments rebelles en l'embonpoint qui faisaient l'admiration d'Arnold et que les années, au lieu d'alourdir, dessèchent. Il avait une petite moustache rousse, des yeux vifs, un nez aux ailes fines. Une grande bonté émanait de lui, mais une bonté qui n'excluait malheureusement pas la fermeté. Deux hommes le suivaient. Il n'avait pas cette élégance aristocratique qu'on se plaisait à louer chez M. de Bourmont. Larges d'épaules, tenant maladroitement leur chapeau à la main, ils étaient à la fois vulgaires et sympathiques. Le maître, pourtant, avait pour eux des prévenances qui surprenaient. « Jacqueline, dit-il à sa femme, qui, devant l'irruption de tout ce monde, s'était dressée offensée, « excusez-moi de pénétrer ainsi dans votre chambre, mais j'ai à vous parler. Bien que nous soyons en instance de divorce, je suis encore votre mari, et en cette qualité, mon devoir est de veiller sur vous. Oh, pardonnez-moi, les torts ne sont pas seulement de votre côté. » Ils sont aussi du mien. J'aurais dû me douter qu'une jeune femme libre, aussi intelligente soit-elle, ne peut continuellement résister à toutes les tentations qui s'offrent à elle, surtout si son mari est, comme moi, un vieux monsieur. Que voulez-vous? Que signifie la présence de ces gens? Sortez! Sortez, je vous l'ordonne! Jacqueline était méconnaissable. Quand son mari entrait dans sa chambre, cela la mettait déjà hors d'elle. Mais qu'il le fît accompagné de deux hommes qu'elle n'avait jamais vus de sa vie, c'était inconcevable. « Je ne partirai pas avant de vous avoir répété ce qu'on vient de me dire. »« De quoi voulez-vous parler? Je ne vous comprends pas. » »« L'homme que vous avez sauvé de l'asphyxie il y a un instant, cet homme qui est là, couché dans votre lit, Jacqueline, cet homme pour lequel vous me faites souffrir, pour lequel vous m'abandonnez, savez-vous qui il est ?» Jacqueline pâlit. « De quel droit me demandez-vous cela ? Je vais vous apprendre qui il est. C'est un assassin doublé d'un maître chanteur. » Cette fois, Jacqueline perdit de son assurance. Elle se tourna vers Arnold avec l'espoir qu'il se justifierait. Il n'en fit rien. Les yeux fermés, il semblait dormir. Elle s'approcha du lit et, comme une mère dont les droits sont plus forts que ceux des médecins venus en consultation, elle s'interposa. « Vous n'accuserez pas Arnold impunément » cria-t-elle. Il n'avait rien perdu de cette scène. Tremblant de peur, il remontait insensiblement la couverture. Il se croyait un point de mire. Il avait bien tort. Comme dans le procès où l'inculpé a soulevé une question de droit, il ne comptait pas. Les inspecteurs de la police eux-mêmes n'avaient pas encore daigné le regarder. « Vous me faites beaucoup de peine, Jacqueline, » continua avec émotion M. de Bourmont. Vous avez toujours méconnu l'amour que j'ai pour vous, et dans mon insistance, au lieu de voir le désir sincère de vous rendre heureuse, vous découvrez je ne sais quelle sourde hostilité. Je ne suis pourtant plus jaloux, cher ami. Vous m'avez trop bien fait comprendre quelle fournaise serait ma vie si je m'avisais de l'être encore. Mais aujourd'hui, il est de mon devoir de taire mon amour-propre et d'essayer de vous faire comprendre à quel danger vous vous êtes exposé. J'ai la conviction profonde d'agir dans votre intérêt. C'est elle qui m'autorise à reprendre la parole que je vous avais donnée, de ne plus jamais m'immiscer dans vos sentiments. Il en va de votre avenir, de votre bonheur. Je sais, votre esprit bourgeois se refuse à admettre qu'une femme puisse aimer un garçon sans fortune, répondit sèchement Jacqueline. S'il n'y avait que cela, ces messieurs n'auraient pas jugé utile de se déranger. Je commence à trouver que cette plaisanterie a assez duré, monsieur de Bourmont. L'homme qui se cache derrière vous en ce moment, le lâche qui laisse une femme prendre sa défense, est un assassin. Vous m'entendez, Jacqueline? Ce n'est pas possible. Je vous répète que cet homme est un assassin. Et moi, je vous répète que ce n'est pas possible. Depuis trois jours, la police est à ses trousses. Il y a une heure, elle perquisitionnait chez lui. Sans vous en douter, en le sauvant de la mort qu'il voulait se donner pour échapper au châtiment qu'il mérite, vous avez servi la justice. Je viens donc vous demander de continuer volontairement ce que vous aviez commencé involontairement, de laisser ces messieurs remplir leurs devoirs. À première vue, ma démarche peut vous sembler étrange. Il vous apparaît sans doute que c'est pour satisfaire je ne sais quelle rancune que je remplis ce rôle de chef de délégation. Ne le croyez pas, c'est votre intérêt seul qui m'a commandé d'agir ainsi. Quand ces messieurs sont venus me dire tout à l'heure « Il y a un assassin chez vous », j'ai tout de suite deviné ce qui s'était passé. Je n'ai plus eu qu'une pensée, dictée par l'amour que je n'ai, malgré tout, pas cessé d'avoir pour vous. Vous épargnèrent une scène trop pénible. J'ai supplié ces messieurs, pour que la nouvelle ne vous bouleverse pas trop, de m'autoriser à vous y préparer. Ils ont accepté. Comme moi, vous pouvez les en remercier.
C'est épouvantable!
Cela vous servira peut-être de leçon pour l'avenir.
Arnold est un assassin?
Non, non, jamais je ne pourrai le croire. Il arrive souvent que notre sort dépende d'un être en qui nous avions toujours eu entière confiance. À ces moments de danger, un doute se glisse en nous, car aussi grand soit l'amour ou l'amitié, nous ne sommes jamais certains que l'intérêt ne l'emportera pas sur ses sentiments. Arnold regarda Jacqueline avec une frayeur qu'il ne songea même pas à dissimuler. Au moment où il atteignait enfin le bonheur, fallait-il que son passé vînt tout briser? Les écarts qu'on lui reprochait étaient pourtant si lointains. Jacqueline devait savoir qu'il était devenu un autre homme. Jacqueline devait lui pardonner toutes ses fautes. Pourquoi donc semblait-elle si effrayée par les révélations de son mari?
« Jacqueline ! » murmura-t-il de manière à n'être entendu que d'elle.
Madame de Bourmont ne répondit pas, mais elle fixa son regard dans le sien.
« Est-ce vrai ? » demanda-t-elle finalement.
« Non, non, ce n'est pas vrai. On veut m'enlever à vous. On en vit l'immense bonheur qui m'attend. Je vous aime. » Délaissant Arnold, qui, emporté par son amour, balbutiait des phrases incompréhensibles, Jacqueline s'avança vers son mari.
« Vous mentez !» dit-elle en le dévisageant. « Je ne vous crois pas !»
Malgré la conduite qu'avait eue sa femme aussitôt après son mariage, M. de Bourbon l'aimait toujours. Avant qu'elle se fût amourachée d'Arnold, il lui avait pardonné bien d'autres fautes. Toujours, elle lui était revenue, tellement sa patience, sa bonté étaient grandes. L'amour-propre, la vanité, la susceptibilité n'avaient jamais pris le dessus sur ses sentiments. Il savait que, sans lui, elle eût continué de mener cette existence de femme à la fois sans fortune et assoiffée de plaisir. Il savait que, sans lui, elle serait tombée aussi bas qu'il est possible de tomber. En dépit de l'opposition de toute sa famille, de tous ses amis, il avait quand même fait d'elle sa femme. Aussi cet homme qui, en affaires, en amitié, semblait ignorer le mal, ne répugnait-il pas, quand il s'agissait de Jacqueline, à chercher des excuses aux actes les plus vils? Il semblait que la laideur cessât d'être quand elle venait de celle qu'il aimait. Lorsqu'un homme est à ce point dominé par une femme, lorsqu'en outre il a tout accepté pour elle, l'hostilité de sa famille, la perte de ses amis, il est naturel qu'en une circonstance comme celle qui venait de se présenter, il n'abandonne pas la partie avant que, de toute évidence, elle soit perdue. Il s'approcha de Jacqueline, la regarda longuement avec passion. Elle ne baissa pas les yeux. Elle le narguait plutôt qu'elle ne répondait à cette marque de tendresse. Car elle détestait cet homme dont la vie et la fortune lui étaient consacrées. Elle le détestait comme l'employé, parvenu à force de travail à une haute situation, détestera toujours celui à qui une situation équivalente sera offerte. Elle était jalouse de la richesse de M. de Bourmont. Elle ne lui pardonnait pas d'en tirer une telle puissance. Souvent, il lui arrivait de souhaiter qu'il fût ruiné afin de pouvoir l'accabler librement. Cette immense fortune lui cachait toutes les belles qualités de son mari. Il demeurait à ses yeux celui qu'elle avait été obligée d'épouser. C'était donc avec un plaisir décuplé par la satisfaction que donne la vengeance qu'elle le trompait. Certaine d'être aimée, elle avait tout fait pour lasser une patience qu'elle savait inlassable. Monsieur de Bourmont, qui n'ignorait pas ses petitesses, n'en aimait pas moins sa femme comme au premier jour. À l'acharnement qu'elle apportait à le rabaisser, à lui refuser toute qualité, il opposait une douceur infinie. À la longue, cette indulgence jamais mise en défaut avait fini par surprendre la jeune femme. Mais comme elle ne pouvait admettre que son mari eût un sentiment élevé, un soupçon tellement odieux que longtemps elle n'osa le dévoiler, se glissa dans son esprit. M. de Bourmont tolérait son inconduite parce qu'il espérait, un jour, être admis dans l'intimité de ses amours. Sous le coup de la colère, ce soupçon devint une certitude. Hors d'elle, Jacqueline le dévoila un jour à son mari. Il ne broncha pas. Avec bonté, il essaya d'apaiser celle qu'il aimait, de lui faire entendre raison. Mais comme, bien au-dessus de cette accusation, il n'avait rien fait pour s'en défendre, Jacqueline garda néanmoins la conviction qu'elle ne s'était pas trompée. « Je m'excuse, dit M. de Bourmont, de me mêler de choses qui, comme vous me l'avez fait si joliment observer, ne me regardent pas, mais vraiment je crois que cette fois je le dois, même si, à cause de cela, je vous perdais. Vous ignorez ce qui s'est passé. Vous êtes à 100 lieues de vous douter de la bassesse de l'homme en qui vous avez mis toute votre confiance. Permettez-moi de vous l'apprendre. Oh, ne croyez pas que je veuille tirer un avantage personnel de cette révélation. Vous n'avez jamais tenu aucun compte des gentillesses que j'ai eues pour vous. J'ose pourtant me recommander d'elle, car je n'ai pas encore agi autrement que dans votre intérêt. Il faut que vous sachiez, Jacqueline, que malgré vos cris, vos colères, vos vices, vous êtes faible et que vous n'avez que moi pour vous défendre. Cet homme que vous protégez si noblement et qui se laisse protéger a su séduire d'autres femmes que vous. L'enquête de police a d'ailleurs révélé qu'il a toujours vécu des subsides que lui donnaient ses maîtresses. Malheureusement pour lui, il a voulu être trop gourmand. Celle qui vous a précédé... « Assez, assez !» cria Jacqueline. « Laissez-moi finir. Celle qui vous a précédé était la femme d'un fonctionnaire honorable. Elle n'était pas riche. Pour satisfaire aux exigences de son amant, elle avait recours à ses amis, à ses parents. Mais quoi qu'elle fît, c'était insuffisant. Savez-vous alors comment agit cet individu qui est là, dans votre lit ? Par le chantage. Il menaça cette pauvre femme de révéler la vérité. Elle perdit la tête et, la première, avoua tout à son mari. C'était un homme de grand cœur. Malgré sa douleur, il résolut de prendre sa défense, de la sauver des mains de ce triste personnage. En place de sa femme, il se rendit à un rendez-vous que cette dernière avait fixé. Une scène d'une violence inouïe s'éleva alors entre les deux hommes. « Votre amant, Arnold, je crois, fou de rage, se précipita à la gorge du mari de celle qu'il prétendait aimer. Une lutte s'ensuivit. L'un était jeune, l'autre vieux. Le vieux ne tarda pas à avoir le dessous. Il s'affaissa. La rage de l'agresseur dut alors disparaître, car il ne s'acharna pas davantage. Sans même s'occuper du sort de sa victime, il jugea plus prudent de prendre la fuite. On transporta le pauvre fonctionnaire dans une pharmacie. Tous les soins qu'on lui donna pour le ramener à la vie furent inutiles. Il avait été étranglé. Et c'est le meurtrier de cet homme que vous aimez, Jacqueline. Non, malgré l'évidence, je ne peux pas le croire. Arnold avait tout entendu. Il tremblait. La peur donnait à son visage une laideur repoussante. Sa bouche était tordue. Une expression de condamné qu'on conduit au supplice le défigurait. Son seul espoir était en Jacqueline, et il appréhendait qu'elle ne l'abandonnât à son triste sort. Il ne songeait ni à se défendre, ni à se justifier. Comme un courtisan dont la vie serait entre les mains de la favorite du roi, il épiait tous les gestes de celle qu'il avait sauvée de la mort. Profitant de ce que M. de Bourmont s'était interrompu, accablé, il prit les mains de Jacqueline. « Ils veulent nous séparer, murmura-t-il. « Mais promettez-moi que, quoi qu'ils insinuent sur mon compte, vous me resterez fidèle. Ils sont jaloux de notre bonheur. » Quant aux agents, en acteurs dont l'heure n'est pas encore venue d'entrer en scène, ils s'entretenaient de petites rivalités professionnelles, notamment de l'injustice dont le chef de leur brigade s'était rendu coupable en donnant de l'avancement à un de leurs collègues, simplement parce que celui-ci était marié avec la sœur d'un ami de jeunesse du préfet de police. « Je vous aime, Arnold !» Ces mots ranimèrent notre héros, mais un instant seulement. Jacqueline, lorsqu'elle apprendrait la vérité, ne se détournerait-elle pas de lui avec dégoût? Qu'avait-il donc fait de noble, de grand, pour mériter un tel bonheur? Quels arguments trouverait-il pour convaincre Madame de Bourmont de la sincérité de son amour? Tout parlerait contre lui. Ses beaux yeux, la chaleur de sa voix, la franchise de son visage, la force de son corps, que pouvait-il contre des hommes résolus à le confondre? Jacqueline posa une main sur le front brûlant du jeune homme et murmurant à plusieurs reprises « Il a de la fièvre !» Elle regarda son mari avec un air de reproche. « Non, dit doucement M. de Bourbon, je ne cherche pas à vous faire de la peine. Je vous aime trop. Mais je dois vous dire, bien que cela me brise le cœur, que si vous persistez dans votre attitude, je serai obligé de passer outre. L'homme que vous défendez avec un tel acharnement, je vous répète qu'il est un assassin. » « Je le sais, répondit Jacqueline d'un trait, afin de montrer que cette connaissance n'était pas feinte. « Et vous vous abaissez à le protéger? Vraiment, je n'aurais pas cru que vous fussiez tombé si bas. » À ce moment, faisant un effort qui tendit les veines de son cou, Arnold souleva la tête et, dans un souffle, dit à sa protectrice « Cela ne le regarde pas. Si quelqu'un doit souffrir de mes fautes, c'est vous, c'est moi, mais ce n'est pas lui. Puisque vous m'aimez malgré tout, il n'a qu'à nous laisser en paix. » Ces paroles furent prononcées avec un sens de l'à-propos bien imprévu chez un homme qui, une heure auparavant, avait tenté de se donner la mort. Il continua sur le même ton « L'essentiel est que tu me pardonnes, Jacqueline. Et tu me pardonnes, je le sais. » Monsieur de Bourmont coupa la parole au jeune homme. « Il ne s'agit pas de savoir, Jacqueline, si vous admettez ce meurtre. Votre approbation n'est pas une excuse, d'autant plus que vous êtes la dernière à pouvoir vous faire une opinion sur un tel sujet. » Il y eut un silence. Jacqueline ne répondit pas. Étaient-ce les paroles de son mari ou bien celles d'Arnold qui la plongeaient dans cette stupeur? Elle était transfigurée. « C'était donc vrai ? » demanda-t-elle à Arnold d'une voix tremblante. « mais non !» balbutia ce dernier, qui, brusquement, comprit qu'il avait trop parlé. « Je voulais dire que, même si cela était, rien ne devait être changé entre nous. »« Vous avez tué, vous en qui j'avais mis toute ma confiance, vous avez pu faire une chose pareille, et vous me l'avez cachée. » Et vous sachant criminel, vous m'avez laissé vous aimer. Vous rendez-vous compte de votre ignominie ? Arnold était atterré. Que pouvait-il répondre ? De désespoir, il fit une grimace horrible. Combien de fois déjà il avait cru que le bonheur s'offrait enfin à lui ? Sa main n'avait rencontré que fumée. Il en serait donc toujours ainsi. Une sorte de fatalité pesait sur lui. Il ne devait pas être heureux. Même si, trompant sa destinée, il parvenait à l'être, bien vite, son ennemi invisible le remettait dans le rang misérable qui lui était dévolu. Jacqueline ne s'éloignait-elle pas déjà? Il n'entendait plus ce qu'elle disait. Pourtant, elle parlait, parlait. En revanche, les deux hommes brutaux ne s'approchaient-ils pas sans desserrer les lèvres? Arnold voulut se lever. Son corps de plomb refusa d'obéir. Il regarda autour de lui. Jacqueline n'était plus qu'un être insignifiant et lointain qui semblait réciter une leçon. Il entendit une sirène mugir longuement dans la nuit, des cris, des éclats de voix venant d'une pièce voisine. Monsieur de Bourmont était brusquement tombé dans un fauteuil et il sanglotait, fort heureusement pour Arnold, car faisant demi-tour, les policiers se dirigèrent vers le malheureux. Est-ce qu'une voix ne cria pas à ce moment « On le tient ?» D'où venait cette voix? Il était impossible de le dire. « mon Dieu, que je souffre !» dit M. de Bourmont entre deux crises de larmes. « Prenez ce verre d'eau. »« Non, non, je ne veux rien, rien. Jacqueline, Jacqueline !» Effondrée sur un divan, elle pleurait également. Dans leur désir de se rendre utile, les policiers ne savaient plus où donner de la tête. aussi étrange que cela puisse paraître, ils avaient perdu de vue la véritable raison de leur présence en ce lieu. Ils ne se souciaient plus d'Arnold. Leur seule préoccupation était de plaire à M. de Bourmont, de s'attirer sa reconnaissance. De Locke, incapable de mouvement, Arnold s'était subitement transformé en homme vigoureux. Il cacha pourtant ce changement. Avec une lenteur précautionneuse, il se glissa hors du lit. Par un hasard providentiel, tout le monde lui tournait le dos. Sur la pointe des pieds, il s'approcha de la porte. Elle était entr'ouverte. D'un seul doigt, il la tira à lui. Allait-on s'apercevoir de sa fuite ? Il longea un étroit corridor, éclairé de distance en distance par une petite lampe électrique. Un escalier se présenta à lui. Il le descendit. Au rez-de-chaussée, le hall était obscur. Il le traversa sans se presser, afin de ne pas donner l'impression de se sauver. Il était pourtant seul. Mais, ne connaissant pas les êtres, il craignait qu'on ne l'observât de quelque cachette. Bien qu'il éprouvât un profond soulagement, il n'osait encore trop se réjouir. Ne se trouvait-il pas dans la situation de celui à qui un ami, devançant le courrier officiel, annonce une bonne nouvelle ? Chaque seconde le rapprochait de la certitude, mais ne pouvait-il pas se faire qu'une main se posa brusquement sur son épaule, qu'une voix l'interpella ? Heureusement, rien de fâcheux ne se produisit. Le temps, en s'écoulant, creusait un fossé de plus en plus large entre ses poursuivants et lui. La sirène mugissait toujours, et il entendait, venant de toutes parts, les bruits précipités d'allées et venues. Comme au milieu d'une agitation dont on n'est pas la cause, il n'en ressentait que plus de tranquillité. La porte était fermée. Il n'en fut nullement surpris. Il s'approcha d'une fenêtre, en écarta les rideaux, l'ouvrit, sauta dans le jardin. À travers des arbres et des buissons, il aperçut une file d'autobus éclairés. Il se dirigea vers eux. Une grille, de plusieurs mètres de haut, l'arrêta brusquement. Un instant, il fut saisi d'une frayeur folle. Allait-il être repris au moment où il respirait l'air libre qui, à travers les barreaux, venait un grand flot caresser son visage? Une idée de prisonnier traversa alors son esprit. Il s'évaderait par la porte. Il longea cette grille jusqu'à l'entrée principale. Puis, passant une main à travers les barreaux, il sonna à l'extérieur comme un visiteur. Le cœur battant, il attendit. Soudain, il perçut un léger déclic. La porte s'était ouverte. Toujours d'un seul doigt, il attira à lui. Il était libre. Il traversa un autre jardin, public cette fois. À mesure qu'il s'approchait du carrefour lumineux qu'il distinguait à travers les arbres, sa joie se faisait plus grande. Comme ceux que l'espoir d'une aventure a conduits dans la solitude d'un bois, il lui était doux de se retrouver parmi les hommes, de n'être plus isolé, de faire partie de cette foule au milieu de laquelle il avait certainement des frères, des êtres identiques à lui. Perdu dans le nombre, ses fautes avaient moins de gravité. Dieu seul lisait dans son âme. Mais lui, au moins, il lisait tout, le bien ainsi que le mal. À la station Terminus, des braves gens attendaient le départ d'un autobus. Ce fut avec délice qu'Arnold se glissa parmi eux. Comme ses voisins, il attendit patiemment. Personne ne se souciait de lui. Une même préoccupation, celle d'entendre la sonnette du départ, le rendait semblable à son entourage. Mais la peur d'être reconnu le troubla soudain. Il s'éloigna en feignant de chercher des yeux une horloge. Puis, comme s'il venait de prendre une résolution, il partit droit devant lui, de ce pas décidé qu'affectent ceux qui, par délicatesse, veulent s'excuser de se singulariser. Durant une bonne heure, il joua pour lui tout seul, car personne ne l'avait suivi, la comédie de la hâte de rentrer chez soi. La pluie, qui s'était interrompue, retombait avec violence. Il avait baissé les bords de son chapeau de feutre pour que l'eau ne s'y accumulât pas et qu'elle coulât comme sur un toit en pente. Parfois, il s'arrêtait une seconde afin de chasser cette sensation d'étouffement qui, à intervalles réguliers, l'oppressait. Dans la misère physique où il se trouvait, le découragement le gagnait peu à peu. Le suicide, l'amour de Jacqueline, la fuite, tout cela lui avait jusqu'à présent masqué le crime abominable qu'il avait commis. Il avait voulu mourir et il vivait. Une intervention miraculeuse, celle de Jacqueline, l'avait sauvé. Mais qui était cette femme? Comment se faisait-il qu'elle se fût glissée dans sa vie au moment où justement rien ne pouvait le racheter? Il ne le savait pas. Tout se dérobait autour de lui. Il restait seul avec sa faute, avec son remords. Si on l'avait appréhendé à cet instant, qu'eût-il trouvé pour se justifier? Rien. Les minutes étaient comptées.